bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Te voilà bien en forme pour cette première émission, première émission de la saison. Et nous, on entame la 20e saison, j'y crois pas, mais c'est comme ça. Et puis, on apprécie toujours de vous faire partager nos coups de cœur, de vous parler des romans noirs qui nous ont interpellés, qu'on a repérés. On va essayer de continuer. On va essayer de continuer à nous faire partager notre passion. Et pour cette 20e, les fidèles auront remarqué que nous avons un nouveau générique. Jacques, tu peux nous le présenter, s'il te plaît?
Oui, donc c'est un morceau qui s'appelle Jimbo. C'est une composition de Steve Vai qui la joue à la guitare. C'est une espèce de motif de blues, mais interprété à la Steve Vai, quoi. Enregistré à Londres en 2004.
Rien que pour nous. Je suis sûr que c'était rien que
probablement.
Pour nous. Pour commencer, on va vous donner quelques nouvelles de la planète polar. C'est le temps, c'est la rentrée littéraire, c'est aussi le temps où on commence à voir les sélections des prix. Dans le polar, on commence très vite. Dans le roman noir, il y a déjà deux prix qui sont tombés. Le premier, c'est le plus prestigieux. C'est celui que nous appelons le GPLP. C'est Grand Prix de littérature policière. C'est un des plus anciens. C'est un des plus connus. À chaque année, un jury de spécialistes élise un roman français et un roman étranger, le meilleur de l'année. D'avant. Le roman français qui a été plébiscité, c'est un roman qui s'intitule Cherokee. Son auteur en est Richard Morgièvre et c'est aux éditions Joël Losfeld. Donc là, on est vraiment dans le roman noir. Écriture poétique, écriture de manière totalement volontaire, légèrement surannée, à l'atmosphère vraiment très très particulière. Pourquoi ? Parce qu'il y a entre autres un très bel hommage au polar américain des années 50-60. Il y a en particulier un shérif qui s'appelle Nick Corey. Alors, je laisse deux secondes parce que certains cherchent dans leurs petits neurones. Eh bien, c'est comme dans le célèbre roman de Jim Thompson. Le shérif s'appelle aussi Nick Corey. Le roman, c'est le numéro 1000, c'est toujours le numéro 1000 de la série noire. 1275 âmes. Rappelons que...
Ils n'ont pas de lien de famille.
Voilà, non, c'est vrai. Mais qu'il y a eu une nouvelle parution, parce que nouvelle traduction, bien meilleure, de Jean-Paul Gracias, roman réédité chez Rivage il y a, je crois, un peu moins de 2 ans, qui s'appelle donc maintenant Pottsville, 1280 habitants.
Et donc le roman étranger qui a été primé?
Merci de cette question. C'est un roman qui s'appelle Un soleil sans espoir. C'est un roman de Kent Anderson et c'est paru chez Calman Levy, collection Calman Levy Noir. La traduction, puisque c'est un roman américain, est de Elsan Maggio. Kent Anderson, c'est tout à la fois un écrivain mythique et tout à la fois un écrivain peu connu du grand public, particulièrement en France. Mais quand on a lu Sympathy for the Devil...
Qui est tout à fait un roman absolument splendide, d'une noirceur absolue, mais... d'un ancien du Vietnam qui reprend un boulot de flic, et c'est vraiment...
Là, on va retomber dans Un soleil sans espoir, on va encore parler du Vietnam. Il a ses démons, Kent Anderson, et il a surtout une plume absolument magique. Autre prix qui a été décerné un tout petit peu avant, la semaine d'avant, c'est le prix du roman noir historique. Et ce prix sera remis à Blois en octobre. Le lauréat... c'est Frédéric Paulin, avec un roman paru l'année dernière, aux éditions Agulot, qui s'appelle « La guerre est une ruse ». On est en Algérie, en 1994, en plein dans les années de cendres, et Frédéric Paulin, en gros, démonte la mécanique de la terreur avec une histoire qui évite cependant tout manichéisme, et c'est très intéressant. Je disais que c'était la rentrée littéraire, moi, je vais aller un petit peu à contre-courant, en faisant, on va dire, tout au long de cette émission, une séance de rattrapage, pour 3 romans qui ne sont pas parus ni cet été ni en ce début d'automne, mais il y a déjà quelques mois, voire il y a un peu plus d'une année. Et toi, Jacques, de quoi vas-tu nous parler ?
Moi, j'ai 2 romans récents. Un qui est paru dans l'été, un roman norvégien, et un qui paraît ces jours-ci, un roman japonais.
Je fais une séance de rattrapage pour un roman qui est paru il y a un peu plus d'1 an, aux éditions Inuit. Un roman qui s'appelle Amer...
Inuit, ça s'écrit in avec un 8 derrière.
Ah oui, un 8, pardon. Oui, c'est pas la tribu du nord, près du pôle Nord. Ça s'appelle ce roman Amer Méditerranée, Amer en un seul mot, c'est le qualificatif. Son auteur en est Philippe Georget. Et là, on est sur une petite île. Cette petite île, ben, elle est un peu petite pour s'appeler Lampedusa, mais en gros, c'est un petit peu ça. On va faire la connaissance de Luca Santoro. Luca, il est journaliste. Enfin, un petit peu, hein, je ne foule pas non plus, parce que bah, d'abord, il est dans sur une île de Méditerranée, puis qu'il a un gros chagrin d'amour, donc il faut le temps que c'est, qu'il se remette, mais ça met longtemps quand même. Hein. Et il est sur l'île d'Ostiolum. Alors, Ostiolum, ce n'est pas un nom choisi au hasard par Philippe Georget, parce que ça veut dire en latin « petite porte ». Alors, cette petite porte, eh ben, c'est peut-être une petite porte d'espoir pour des migrants, qui viendrait de l'autre côté de la Méditerranée, ou petite porte parce qu'elle est trop étroite. On peut voir plein de métaphores. Luca, en tout cas, c'est un humaniste, un amoureux du genre humain. Il dit de cette mer Méditerranée qui révèle pourtant tant de cadavres en ce moment, donc je cite Luca et les mots de Philippe Georget, « J'aime la Méditerranée lorsqu'elle est pont entre des civilisations, passerelle entre les peuples, pas lorsqu'elle n'est plus que mur ou frontière. » Encore moins lorsqu'elle devient tombeau. Alors, lorsqu'une fois de plus, une embarcation pleine à craquer de migrants chavire, près des côtes évidemment de cette petite île, une fois encore, Luca va aider ses copains pêcheurs à sauver ceux qui ont eu la chance de s'accrocher à quelque chose, une bouée, un morceau de bois. Mais malheureusement, les sauveteurs, ils ne peuvent pas ne pas voir les cadavres de ceux qui ont eu moins de chance. L'histoire se répète indéfiniment. Et le centre qui accueille les migrants sur l'île est de plus en plus rempli. Parmi les survivants, on a une jeune fille qui s'accroche à un petit chaton. Petit chaton assez mal en point d'ailleurs. La jeune fille, jeune femme, jeune adolescente, on ne sait pas trop, Fatou. Elle s'accroche au minet, mais les services sanitaires sont inflexibles. Il faut tuer le chaton. Et évidemment, Luca fond et devant le chaton, mais aussi devant les yeux de la jolie Fatou. Et il va essayer de sauver le chaton, de le récupérer, de l'accueillir dans la maison. Métaphore. Mais d'étranges individus débarquent sur l'île, semblent vouloir du mal à Fatou. De là, le roman noir peut démarrer, si je puis dire. Luca et ses amis veillent. Peuvent-ils quelque chose contre les mafieux et les vengeances des passeurs? Vous le saurez en lisant ce roman. De chapitre en chapitre, on a une jolie construction narrative. On suit d'abord le long voyage des migrants, leurs différents pays d'origine, leurs terribles conditions de vie, tout ce qui les pousse à partir. Et puis, il y a le trajet, terrible. Tant d'entre eux y laisseront leur peau. En particulier à cause de la cupidité des passeurs et de leur cruauté, des trafics en tout genre, les trafics s'étant la plupart du temps autour des êtres humains. Alternativement, on découvre sous la plume de Philippe Georget la vie, je dirais presque idyllique, des habitants de la petite île, la vie simple, les amis de Luca, Hugo, Esteban, Corto, tous ces gens, le bar du village, les senteurs qui filtrent des cuisines. Pour les uns comme pour les autres, le soleil ne brille pas pareil. Et la mer Méditerranée, elle n'est pas de la même couleur selon que l'on est migrant ou habitant de la petite île d'Ostiolum. C'est un roman noir bien mené, une tension narrative qui s'essouffle jamais. On s'attache aux personnages.
Et moi, ce que j'ai... petit chat.
Et au petit chat, ben oui, ben justement, j'allais en parler parce que ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la réflexion sous-jacente de cette histoire. En effet, c'est le petit chat qui va être le point de mire. Les médias s'en sont mêlés, il va y avoir un reportage sur le chat. Et le cœur des citoyens, évidemment, il va fondre devant le sauvetage de ce chat, sans même détourner le regard pour tous les humains qui sont au fond de l'eau. Et tout cela, évidemment, ce n'est qu'un roman, n'est-ce pas? Voilà, je rappelle le titre « Amer Méditerranée », édition Inuit, l'auteur, l'écrivain Philippe Georget. Jacques, un petit peu de musique?
Un petit peu de musique, comme à notre habitude dans cette émission. Là, on va écouter un titre d'un album des Rainmakers, parce qu'en fait, cet album va avoir une grande importance dans le roman dont je vais parler après. Donc, on va écouter, le morceau s'appelle Long Gone Long, qui est du premier album éponyme, donc, des Rainmakers, paru en 1986.
Pace is falling slack, I catch myself a thinking back. Certain night, a certain car that night, drove out past the signal light, past the city limits, guess it wasn't that far. Stopped down on the rural Ragoosh, got out his 22, shooting at a freight train that was hauling new cars. Drinking underneath the stars, watching, counting meteors. Robert said, you know, those fell 100 years ago. The light is just now reaching Earth. I said, man, for what it's worth, I think you are wrong, and you really don't know. Whoa, come singing now, man, these clocks are slow and hard. Speed on and long gone, long.
Is something going on?
I tell you, nothing's going on, nothing's going on. Stepped up from behind the tree, tears are running down her cheeks. Goodbye to more than either of us could have known.
Et voilà, c'était Les Faiseurs de pluie. Et maintenant, Jacques, tu vas nous parler d'un roman sorti à la fin de l'été.
Voilà, au cours du mois d'août, un roman de Joe Nesbø qui s'appelle Le Couteau, qui est paru à la Série Noire et qui est traduit par Céline Roland-Monnier. Donc Joe Nesbø, on en a déjà parlé beaucoup dans cette émission, il avait écrit son précédent roman, une version post-moderne, du Hamlet de Shakespeare. Et là, Nesbø, il retrouve son personnage fétiche, Harry Hall, le flic d'Oslo. On sait, ceux qui ont déjà lu des romans précédents mettant en scène Harry Hall, que Nesbø aime bien le pousser dans ses derniers retranchements. Et jusqu'où il va le pousser, difficile de le savoir. Mais il a affirmé dans une récente interview à la revue 813 qu'il ne souffrait pas du syndrome de Sherlock Holmes et donc il ne le tuerait certainement pas. Qu'est-ce qu'il va faire, Nesbø ? Il ne tue pas Harry Hall, c'est sûr, mais il va tuer sa femme, la belle Raquel. Et Harry, et c'est le premier suspect.
Il avait bien besoin de ça, Harry Hall.
Il avait besoin de ça. Alors, non sans raison.
Il a traversé.
Voilà, c'est le premier suspect. Non sans raison, car au matin du meurtre, Harry Hall se réveille avec du sang sur les mains, qui n'est pas le sien. Enfin, les mains, oui, mais le sang, non. Et sans se rappeler ce qu'il a fait la veille. Il faut dire que il est dans une période noire où il plonge bien trop souvent son nez dans un verre de Jim Beam et jamais qu'un. Il ne va pas bien. Raquel l'avait mis à la porte de leur maison sur la colline. Il avait vendu son bar et il avait même réintégré la police criminelle. Mais en fait, on ne lui laissait que les vieux cold cases pour exercer ses talents. Alors, contre l'avis de sa hiérarchie, il va tenter de trouver l'assassin de Raquel et de se prouver à lui-même que c'est pas lui, parce que comme il se rappelle pas, il en est pas tout à fait sûr, et surtout de prouver aux autres. Mais en même temps, il va se lancer à la poursuite d'un serial violeur, je sais pas si le terme existe.
Serial rapper.
Voilà, un violeur en série, donc il avait arrêté il y a quelques années, qui vient de sortir de prison, il veut l'y remettre. Alors, Joe Nesbø n'est pas tendre avec son personnage, je le disais au début. Ce roman ne fait pas exception. Pendant près de 600 pages, il va plonger Harry Hall, dans les pires tourments. Harry Hall est certainement un flic hors pair. Alors vous imaginez que quand c'est lui-même le sujet de sa propre enquête, il va tout faire pour la mener à bien.
Il est capable de se foutre un coup de couteau, justement.
Tout à fait. Sans pour autant, le couteau, exactement. Sans pour autant négliger sa quête du serial violeur qu'il va mener en parallèle. Alors, Nesbø, les arioles, c'est du thriller, certes, mais alors du thriller de haute volée. Nesbø ne cherche jamais le sensationnel ou le gore. Il y a peu ou pas de descriptions sanglantes qui feraient frissonner le lecteur avide. C'est plutôt en nous entraînant dans l'intime de Harry Hall qu'il nous tient par le bout du clavier. Harry se débat avec ses démons, ses addictions, et là en plus il a un doute, est-ce qu'il a tué Raquel ou pas ?
Il est souvent assailli de doute.
Il est souvent assailli de doute, mais celui-là il est quand même extrêmement perturbant, parce que c'est la femme qu'il aimait depuis longtemps, ils ont eu des histoires compliquées, mais quand même. Outre son sens de la narration, qui est toujours impeccable, qui tient en haleine, comme on dit dans les blocs polars, la force de John Nesbø, c'est tous les personnages secondaires. Et il y en a pas mal. Ils apparaissent dans le récit, et à chaque fois, l'auteur leur prête une attention particulière. Ils ne sont pas là que pour faire avancer l'histoire. Ils leur donnent une véritable existence. Il y a le flic ambitieux de la Kripos. La Kripos, c'est la section criminelle de la police. Il y a un avocat un peu fatigué, un chef de projet qui est revenu tout abîmé de son séjour au Moyen-Orient. Et il ne faut pas oublier les femmes, les nombreuses femmes. Raquel, qui cette fois-ci a un tout petit rôle, elle passe pas la page 50, mais on retrouve aussi Alexandra et Katia, éternellement amoureuses d'Harry, même si elles se le cachent à elles-mêmes. Et au fil des romans, en fait, Nesbø a construit autour de Harry Hall un cercle quasi familial, avec des personnages qui reviennent régulièrement. Certains disparaissent pour apparaître un ou deux épisodes plus tard, ou pour revenir. Ou il y en a certains qui l'éliminent carrément. Ça arrive, il y en a quand même qui meurent dans les romans de Harry Hall, dans celui-là aussi.
Donc on ne s'en lasse pas, quoi.
On ne s'en lasse pas du tout. En fait, l'univers de Harry Hall, c'est un peu celui du lecteur. Et en fait, il y a une véritable effet série qui est un peu, comment dire...
Addictif.
Addictif, plus qu'addictif, qui est un peu aussi confortable, en fait, parce qu'on aime bien quand on rentre dans un roman de Harry Hall.
Voilà, la charentaise, c'est une charentaise.
Pas tout à fait, mais une charentaise un peu nerveuse. Oui. Donc, le couteau de John Nesbø à la série noire.
On se retrouve dans quelques instants.